Celebrate several weeks, my good GM sweating. We took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Bienvenue sur Radio RT, la radio du centre social Roll Tanguy, menée par les jeunes de 12 à 16 ans. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Jacques Ivorel sur nos ondes. L'ordre de l'interview ne correspond malheureusement pas à l'emploi du temps de nos jeunes. Je vais donc être le rapporteur de leurs questions. Jean-Jacques Ivorel, bonjour.
Bonjour.
Nous nous sommes bien sûr renseignés sur vous et sur votre parcours professionnel. Et là, on ne savait plus où regarder. Parce que vous êtes enseignant, chercheur, auteur, historien. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ?
J'ai été éducateur aussi.
Ok. Les jeunes se sont demandé comment on peut porter autant de casquettes. Peut-être revenir quelques années en arrière et comment on en arrive jusque-là.
Écoutez, on ne va pas faire une longue biographie, mais donc j'ai mené en même temps deux carrières à un moment, celle d'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, où j'étais rentré un peu par hasard. À vrai dire, je faisais les nuits dans un foyer. Voilà, j'étais éducateur contractuel, mais faisant uniquement les nuits, et tout en poursuivant mes études d'histoire. Pendant 17 ans, j'ai été éducateur. Et puis après... J'ai soutenu ma thèse et j'ai été embauché comme chercheur à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, comme historien, voilà, où j'enseignais par ailleurs, et j'enseignais parallèlement dans différentes universités.
Voilà. Donc justement, les jeunes se sont bien rendus compte de ça, que vous avez enseigné à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette école ?
C'est une école donc, d'État qui forme les professionnels de la justice, de l'éducation qui s'appelait l'éducation surveillée avant et qui s'appelle maintenant la protection judiciaire de la jeunesse. Donc elle forme tous les professionnels. Le plus gros effectif, c'est les éducateurs, mais on forme aussi les directeurs, les formations d'adaptation des psychologues, des infirmières, des personnels administratifs, etc. Enfin, tout le personnel de la protection judiciaire de la jeunesse passe par l'école nationale qui est située à Roubaix maintenant,
okay.
Qui était avant à Vaucresson.
D'accord. Et on s'est demandé pourquoi vous portez autant d'intérêt à la jeunesse et à toutes ces multiples facettes. C'est limite une vocation, une passion, non ?
Alors là, c'est vraiment de l'égo-histoire. Non, j'ai découvert, je vous dis par hasard, les jeunes de l'éducation surveillée en cherchant un boulot alimentaire. Et ils m'ont touché, ils m'ont intéressé, ils m'ont ému. Donc, je suis devenu éducateur pendant 17 ans. Mais comme j'étais aussi passionné par l'histoire, j'ai poursuivi par ailleurs ma carrière d'historien. Donc, j'ai mené... et après, j'ai arrêté de prendre en charge directement les jeunes pour enseigner à ceux qui les prennent en charge.
D'accord. Justement, on va parler un peu d'un cadre bien particulier, l'évolution de la justice des mineurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette évolution ? Peut-être revenir en arrière, jusqu'où on peut remonter historiquement ? Est-ce qu'il y a eu une époque où les jeunes et les adultes étaient traités de façon égale, juridiquement parlant ?
Alors, oui. Le traitement différencié des jeunes enfants et adolescents est relativement récent au regard de l'histoire. Il y avait une tendance à les punir moins sévèrement. Il y avait un adage de la justice d'Ancien Régime qui disait qu'il faut punir moins sévèrement les enfants, les femmes et les gens de qualité, c'est-à-dire les nobles. La Révolution française avait inscrit un principe d'égalité devant le droit, mais cependant on avait gardé cette idée de punir moins sévèrement les enfants. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le langage juridique, l'excuse atténuante de minorité. Voilà. Donc les enfants étaient... Mais c'était une pratique, c'était pas vraiment inscrit dans le droit. Et ça va s'inscrire petit à petit dans le droit. Mais moins sévèrement, ça voulait dire tout simplement qu'ils avaient les mêmes peines que les adultes en moins long. Voilà. Au lieu... Donc, il n'y avait pas de prise en charge distincte des enfants, ils subissaient les mêmes peines dans les mêmes prisons, mêlés aux adultes. Voilà. Et c'est à partir de la Restauration, c'est-à-dire des années 1815 et de la monarchie de Juillet, donc des années 1830-1848, que l'on va mettre en place un dispositif de prise en charge un peu différent des mineurs par rapport aux adultes, suite à un constat qui était l'effet délétère et aggravant que pouvait avoir la prison sur les mineurs. Donc la prison qui était en soi un modèle nouveau de punition, c'est-à-dire que la prison c'était une invention des Lumières et de la Révolution française comme moyen de punir. Il y avait des prisons avant, mais c'était pour maintenir les gens, les garder, avant de, par exemple, les supplicier ou de les envoyer aux galères. Mais la prison n'était pas le mode de punition, n'était pas condamné à la prison. On était condamné au supplice, mais pas à la prison. Et la prison, donc, ayant devenu, après la Révolution, le moyen par excellence de punition, on s'aperçoit que cette prison, telle qu'elle fonctionnait, était très nocive pour les enfants. Voilà. Et alors, on a toutes sortes de propos lyriques. Il suffit qu'il mette une seule fois le pied dans cet infâme lieu pour fixer à tout jamais leur vie dans les prisons. S'ils ne finissent pas sur l'échafaud, et ça, on peut multiplier les citations de ce type. Et donc, on va réfléchir à une autre prise en charge des mineurs de justice à partir de ce moment-là.
D'accord. Est-ce qu'il y a un moment précis où on écrit un texte qui vraiment...
Non, c'est une succession de textes, de décisions qui se succèdent les unes derrière les autres. C'est une lente construction. Et donc, on va... Alors, il y a quand même quelques textes comme ça. Le premier important, c'est 1850. Après, il y en aura un aussi important en 1912 et puis un encore plus important en 1945. Mais ces textes ne viennent que marquer l'aboutissement de dispositifs qui changent petit à petit. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place comme dispositif dans cette période ? On va même dire que pour les jeunes, on va mettre en place trois choses. On va essayer de mettre en place trois choses. D'un côté, on va essayer de construire une prison sans les inconvénients de la prison. Ça ne va pas très bien marcher, mais enfin, bon, ça n'empêche pas qu'on continue d'essayer de construire la prison sans les inconvénients de la prison. Deuxièmement, à côté de la prison, on va créer des établissements pour les mineurs de justice, spécifiques pour eux, se voulant éducatifs. Les premiers établissements seront des colonies agricoles, pénitentiaires. Pourquoi agricoles ? Parce que ça, c'était la période du moment. Hein. C'était l'idée que la ville était le lieu de la corruption et que donc, en envoyant les enfants à la campagne, ça allait aller beaucoup mieux. Et puis, la troisième chose qu'on crée à cette époque, c'est ce qu'on appelait à ce moment le patronage. Alors, ce n'est pas le patronage du jeudi après-midi qu'on a pu connaître dans les années 50. C'est le patronage au sens du saint patron, de celui qui protège. Là, c'est tout simplement le patronage, et les jeunes restent dans la société civile, soit chez un maître d'apprentissage placé, soit dans leur famille même, et ils vont être conseillés, aidés, surveillés à l'époque, par une personne charitable, parce qu'il n'y a pas de professionnel pour faire cette tâche. Alors, c'est intéressant parce que ces trois formes de prise en charge sont toujours les trois formes de prise en charge qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, un mineur de justice, un mineur qui a maille à partir avec la justice, on va soit le laisser chez lui avec une mesure éducative, ce qu'on appelle une mesure de milieu ouvert aujourd'hui, alors il y en a de différents types, ou on va le placer dans un établissement spécifique pour mineurs de justice, comme par exemple le CEF qui contribue à ce travail, dont les jeunes contribuent à ce travail, ou on va le mettre en prison. Donc voilà, c'est toujours les trois modes de prise en charge de la justice des mineurs. Et donc, faire l'histoire de la justice des mineurs, c'est étudier ces trois modes de prise en charge et comment chacun évolue. Les établissements d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec les colonies agricoles pénitentiaires du 19e siècle ou même du 1er 20e siècle. Le milieu ouvert professionnalisé d'aujourd'hui avec des travailleurs sociaux formés, etc., n'a pas grand-chose à voir avec les dames d'œuvre ou les dames de charité du 19e siècle. Et la prison d'aujourd'hui, ma foi, c'est peut-être ce qui a le moins changé, qui ressemble le plus à ce qui se passait hier. C'est là sans doute que les changements ont été le moins importants. Donc faire l'histoire de la justice des mineurs, c'est étudier ces trois forme de prise en charge, mais étudier les rapports qui les unissent, comment les jeunes circulent d'une structure à l'autre, etc. Et ce, en fonction, alors c'est ce qui va provoquer des transformations, c'est deux grandes choses, hein. C'est d'abord l'évolution qu'on va percevoir de l'enfance et de la jeunesse, hein. Comment à un moment on va, par exemple, séparer, se dire que l'enfance et l'adolescence, c'est deux choses différentes. On va inventer de nouvelles catégories d'âge, hein, et séparer l'enfance de l'adolescence. Où on va se dire qu'un enfant, c'est peut-être pas un adulte en miniature, mais c'est peut-être différent d'un adulte. Donc cette vision de l'enfance va avoir un des premiers éléments de transformation de cette justice des mineurs. Et puis l'autre élément qui va transformer, puisqu'il s'agit de délinquance, c'est la vision qu'on a de la délinquance et de ses causes. Hein, est-elle plus ou moins, a-t-elle plus ou moins des causes sociales, etc. Ou au contraire, n'est-elle liée qu'à l'individu, à sa constitution, à son hérédité ou à sa mauvaise volonté, quoi. Bon, est-il, voilà, donc c'est un débat sur quelle est la responsabilité de la société, quelle est la responsabilité de l'individu. Voilà, et c'est ces deux choses, hein, vision de l'enfance, vision de la délinquance, qui évoluent historiquement, qui vont expliquer les transformations lentes de la justice des mineurs.
Ok, c'était justement une des questions que nos jeunes se posaient, de savoir aujourd'hui, voilà, à quel point on a évolué. Et nous aussi, on s'en posait des questions, parce que l'année passée, lors des présidentielles, on a entendu énormément d'idées de candidats sur les questions juridiques des mineurs. Par exemple, sur l'éducatif plutôt que le répressif, pour éviter la récidive, les centres fermés mais éducatifs, et puis en totale opposition, appliquer la tolérance zéro et même abaisser la majorité pénale à 16 ans. Vous qui parlez d'évolution, lorsque l'on voit des idées proches sur le sujet, mais tellement éloignées sur la pratique, qu'est-ce que vous en retenez ?
Alors, je retiens que... je vais citer Hegel de mémoire, donc ça va, voilà, en disant que, en gros, hein, en substance, Hegel dit on devrait, les peuples et les gouvernants devraient se pencher sur les leçons de l'histoire, mais finalement, la seule leçon qu'on tire de l'histoire, c'est qu'on ne tire aucune leçon de l'histoire. Mmh. Donc on entend en effet des gens qui font des propositions, sans savoir d'ailleurs qu'elles sont anciennes. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Quand vous regardez l'article EPM, établissement pénitentiaire pour mineurs, sur une encyclopédie en ligne bien connue, commençant par un W, vous y disiez que la création d'établissements pénitentiaires strictement réservés aux mineurs est une nouveauté absolue, ce qui est totalement faux. Quand je vous ai dit on va essayer d'inventer la prison sans les inconvénients de la prison, donc dès les années 1833, on va créer à Paris une prison spécifique pour mineurs qui s'appelle la Petite Roquette, hein, voilà, où on enfermera un peu plus de 350 mineurs à certaines périodes, enfin entre 300 et 400, et qui va fonctionner jusqu'en 1930, date à laquelle cette prison de la Petite Roquette sera remise à ses destinataires initiaux, parce que c'était pour elles qu'on les construisait, qui sont les femmes. On construisait la Petite Roquette parce que la prison de Saint-Lazare était en train de tomber en ruine, mais comme les mineurs se sont retrouvés être plus à la mode que les femmes, la prison de la Petite Roquette a été finalement attribuée aux mineurs. Alors c'est une prison où on passe au début de son existence de très longues périodes. Et à la fin, ça sera à partir des années 1860, ça ne sera plus qu'une prison de passage, c'est-à-dire une prison en attendant le jugement, quoi, une prison de préventive. Voilà.
D'accord. Alors, pardon.
Donc non, les EPM ne sont pas une invention. On avait déjà inventé les EPM au 19e siècle. Et ce qu'on a complètement oublié, c'est pourquoi on a arrêté. C'est-à-dire qu'on a arrêté, on a fermé cette prison. Parce qu'il y avait un certain nombre d'inconvénients qu'on a vite remarqués, et on pourrait se poser la question de... Mais on ne se pose pas la question de pourquoi on a arrêté quand on ouvre les EPM.
Ce sont certains inconvénients qu'on retrouve aujourd'hui ou...
Oui, tout à fait. Enfin, C'est une histoire qui se répète de façon tout à fait amusante, enfin qui bégaye, on va dire, qui ne se répète pas, l'histoire ne se répète jamais, mais qui bégaye de façon assez particulière. La petite roquette ouvre sur un modèle carcéral qu'on appelle auburnien. Ça vient de la ville d'Auburn aux États-Unis. Ça veut dire que les jeunes travaillent en commun dans la journée et sont en cellule la nuit, cellule individuelle la nuit. Alors ce système auburnien va avoir un défaut, c'est que ça crée des problèmes de discipline, que c'est à peu près ingérable, parce que voilà, les enfants qui sont là sont sans doute d'authentiques victimes d'un ordre social injuste, mais ce n'est pas parce qu'on est victime qu'on est gentil. C'est une chose difficile à comprendre. Hein. On peut être victime et pas être du tout quelqu'un de sympathique. Et donc ces enfants sont disons, très très turbulents. Et donc la bande de la contre-escarpe continue à joyeusement affronter la bande de la mutualité à l'intérieur de la prison. Donc l'armée doit ramener l'ordre à peu près une fois toutes les 3 semaines. C'est totalement ingérable. Et donc on passe de ce système auburnien à un système philadelphien. Le système philadelphien, c'est le système cellulaire 24 heures sur 24. On le pousse à l'absurde. Excusez. On le pousse à l'absurde, puisque non seulement les enfants passent tout leur temps seuls en cellule, mais ils sont seuls en promenade. C'est-à-dire qu'ils ont le droit à 1 heure de promenade par jour, mais on a divisé la prison. Les jeunes, quand ils ont visité le musée, ont vu ces images de la cour de la prison de la Petite Roquette, divisée un peu comme des parts de camembert. Hein. Et donc, chaque gamin peut faire 5 ou 6 mètres dans un sens, 5 ou 6 mètres dans l'autre, dans une sorte de couloir. La seule différence avec la cellule, c'est que il n'y a pas de plafond, c'est tout. Et quand on se déplace à l'intérieur de la Petite Roquette, comme un regard pourrait être corrupteur, on leur met un sac noir sur la tête, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas se voir. Alors, ça ramène l'ordre. Hein, il n'y a plus de problème d'ordre à la Petite Roquette, mais par contre, donc c'est le premier avantage du système. Le deuxième avantage, c'est que ça fournit un certain nombre de clients à Bicêtre, l'hôpital psychiatrique voisin, parce que c'est quand même une machine à rendre fou. Oui. On voit des enfants qui perdent le langage, ils ne peuvent plus parler parce qu'ils n'ont jamais l'occasion de le faire, donc ils finissent par ne plus parler. On peut passer très longtemps dans cette prison, en plus plusieurs années. Et donc ce système va s'arrêter après la visite de l'impératrice Eugénie en 1864, parce que elle visite la Petite Roquette et les enfants travaillent dans leur cellule, j'ai oublié de le signaler, ils font par exemple des couronnes mortuaires en fleurs artificielles,
D'accord.
ou des chapelets, ils enfilent des perles, au sens tout à fait propre du terme, pas figuré. Ils vont. Elle demande à un enfant visitant la prison « Et combien tu gagnes, mon petit, avec ton travail ?» Elle s'entend répondre « Qu'est-ce que ça peut te foutre, vieille morue ?» Elle en conclut que la valeur éducative de l'institution est faible, parce qu'elle qui visite un tas d'écoles, d'orphelinats, etc., généralement, on lui offre un bouquet de fleurs, on lui récite un compliment, et on ne la traite pas de vieille morue. Ceux qui la traitent de vieille morue, c'est plutôt des plus grands à l'extérieur que des enfants à l'intérieur. Donc, elle en conclut que la valeur éducative de l'institution est nulle. Et elle va faire créer une commission par son mari, en s'arrangeant pour que la commission décide par avance qu'il faut arrêter ce système. Donc, la Petite Roquette ne ferme pas, mais ce n'est plus, on n'y passe plus de longs séjours, mais seulement le temps d'attente du jugement, c'est-à-dire entre quelques semaines et 2 mois au maximum.
Je vais revenir sur une citation que vous avez dit tout à l'heure, où vous disiez qu'à l'époque, on se laissait entendre que quand un jeune mettait un pied en prison, il y retournerait. Et justement, c'est des choses qu'on peut encore entendre au jour d'aujourd'hui. Et dans la presse, en 2014, on nous informe que 3 mineurs sur 4 sont recondamnés dans les 5 ans qui suivent. Est-ce que ces chiffres sont fiables déjà? Et est-ce qu'ils ont évolué dans ce cas-là?
Alors, le chiffre de la récidive, c'est très compliqué parce que, c'est des chiffres pour les mineurs qui ont été incarcérés, mais pas pour les mineurs qui ont été condamnés. Donc, c'est tout à fait ou jugés. Les chiffres de récidive des mineurs jugés sont nettement inférieurs. Le chiffre des mineurs, pour les mineurs qui ont connu la prison, sont en effet très importants. Enfin, la récidive est très importante. C'est-à-dire qu'en effet, ce qu'on apprend en prison, c'est on se socialise à la délinquance. Parce que la prison, au cas où vous l'ignoriez, c'est un des endroits où on rencontre au mètre carré le plus grand nombre de délinquants. Hein, oui. Voilà, donc c'est l'endroit par excellence où on va se convertir à la délinquance, enfin s'ancrer dans la délinquance, voire passer d'une délinquance anodine, enfin de type juvénile, à une délinquance de type professionnalisé. Dès le 19e siècle, dans les critiques que je lis de la prison, c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'avec la prison, vous transformez le petit vagabond en voleur professionnel. On a travaillé beaucoup sur des bandes qu'on appelait les blousons noirs dans les années 50, et ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait une séparation très nette entre le monde des blousons noirs, le monde des bandes, et le milieu, le monde de la délinquance professionnalisée. Et les conversions du monde des bandes au milieu, elles passaient généralement par la prison. C'est-à-dire c'est en prison qu'un blouson noir était recruté comme homme de main par tel ou tel gang, par tel ou tel groupe de criminels professionnels du milieu. Hein. Voilà. Donc et ça, j'ai plein de dossiers de ce type de conversion de jeunes qui passent comme ça et en montrant que c'est bien dans la prison qu'ils ont rencontré un homme du clan machin, un homme du clan Bidule. Qui ont dit, tiens, il est grand, costaud, il a des gros muscles, la bagarre lui fait pas peur, on va le recruter comme homme de main. En général, c'est pas comme responsable de première... c'est plutôt comme porte-flingue qui sont recrutés. Hein. Mais c'est vraiment... on pourrait dire aujourd'hui qu'il semble que en prison, certains passent du trafic de hashish au terrorisme islamiste, que c'est en prison que leur conversion s'est réalisée. Quoi. Donc cet effet criminogène de la prison est certain. Il est toujours vrai. On constate hein, que, justement, des mineurs qui ont fait à peu près les mêmes délits, qui ont à peu près le même profil... Mmh. Jamais exactement le même profil, mais qui aurait à peu près le même profil, entre celui qui a connu la prison et celui qui l'a évité, le destin ne va pas être le même. Voilà. Et que le destin de celui qui a connu la prison sera moins favorable que celui qui a eu la chance de l'éviter parce que il ne vit pas dans la même région, il n'est pas tombé sur le même juge, pour toutes sortes de raisons qui peuvent être aléatoires, parce qu'il y a plein de raisons aléatoires qui font qu'on se retrouve ou pas... incarcéré.
D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, autour de la table, il n'y a pas que Jean-Jacques et moi, il y a également un jeune, je te laisse te présenter.
Almanzo, jeune du CEF.
Ok, et toi, tu avais des questions du coup à poser à Jean-Jacques ?
Ah oui.
On t'écoute.
Je t'écoute.
Pourquoi la justice est-elle injuste ?
Pourquoi la justice ?
Est-elle injuste ?
Pour mille raisons. D'abord, je ne sais pas si elle est injuste. Elle n'est pas toujours équitable. D'abord parce que la justice, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle applique le droit, des règles. Elle applique pas, elle se penche pas sur un problème d'équité où elle est distributive, on dit. C'est-à-dire qu'elle distribue des peines. Hein. Elle, tel délit... Je distribue telle peine. Hein. Elle n'est pas résolutive. Elle ne veut pas résoudre le problème qui fait que on a commis un délit. Alors, elle essaye d'être un peu, et notamment la justice des mineurs, elle essaye d'être plus résolutive. Les juges pour enfants essayent d'appliquer une justice résolutive, mais ils sont quelquefois coincés par le droit, hein, qui dit ben non, quand quelqu'un a commis telle chose, on ne peut pas faire autrement que de le condamner à une certaine peine. Hein. Et ça varie dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut voir que des choses qui étaient considérées comme un peu anodines il y a un certain temps peuvent aujourd'hui être poursuivies beaucoup plus sévèrement, et à l'inverse aussi de temps en temps. Des choses qui auraient été considérées comme des délits hier ou avant-hier seront aujourd'hui considérées comme ne relevant même pas de la justice. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, la justice peut être totalement inéquitable. En effet, on oublie que dans son fonctionnement, elle introduit énormément de hasard, je ne veux pas te donner de mauvais conseils, mais il faut délinquer le vendredi, parce qu'on tombe sur le week-end, où il y a un seul procureur de service. Et donc il va faire déférer beaucoup moins les choses qu'il va juger. Il ne va faire déférer que les choses. Il est de service pour les majeurs et les mineurs. Et donc il va déférer au tribunal que les choses qu'il considère comme vraiment les plus graves. Donc si c'est un délit peu important, il va faire ce qu'on appelle une convocation par officier de police judiciaire. Et donc, quand on a simplement une convocation par officier de police judiciaire, la probabilité d'être incarcéré, par exemple, préventivement, est beaucoup moins grande. Donc ça, c'est un truc totalement... Il y a des choses comme ça totalement aléatoires. Quand on a travaillé longtemps dans un tribunal, on sait qu'il y a des juges répressifs, il y a des juges qui le sont moins. Il y a des procureurs répressifs, il y a des procureurs qui le sont moins. Et ça, ce qui fait que tu dis, tu peux ne pas comprendre. Tu dis, ben pourtant, j'ai fait comme, bon, voilà, d'accord, j'ai fait une bêtise, j'ai volé une voiture et j'ai embouti l'abribus. Bon, c'est embêtant, surtout qu'il y a eu deux blessés. Mais mon copain, il a volé une voiture, il a embouti l'abribus, et puis lui, il n'a pas été en prison, et moi, j'y étais. Donc, je veux dire, c'est injuste. Hein. Ben oui, mais parce que il n'est pas tombé sur le même juge, Donc il y a une part de hasard aussi qui veut rendre la justice injuste. Elle n'est pas non plus. Bon, elle essaye de ne pas l'être. Il ne faut pas dire qu'à chaque fois, elle est systématiquement injuste. Elle essaye de ne pas l'être on essaye de ne pas condamner des gens qui n'ont rien fait pour commencer. Et puis on essaye de prendre en compte, d'individualiser les peines, c'est-à-dire de prendre un peu en compte la situation des gens. Mais je comprends très bien qu'on puisse ressentir les décisions judiciaires comme injustes, d'autant que on condamne beaucoup plus fortement, finalement, les petits délits d'appropriation, etc., que les grands délits de délinquance en col blanc. Hein. C'est vrai que les gens... Monsieur Cahuzac, il est toujours pas en prison. Quand on vole un téléphone portable, le soir même, on se retrouve en prison. Lui, il est toujours pas, même s'il a été condamné, il a des recours, des tas d'avocats, etc. Il arrive à toujours pas y être. Donc ça aussi, c'est une réalité qui fait qu'on peut très bien vivre comme injuste la justice. Qui l'est parfois en plus.
Et en quoi l'enfermement est une bonne chose pour nous, à part nous rendre fous ?
Une bonne chose pour ?
Pour nous.
Ah bah ça, c'est... J'allais dire, je vais te retourner la question. C'est toi qui peux voir si c'est une bonne chose. Hein ? Ce qui est une bonne chose pour vous, c'est que... je ne dis pas que je vous connais, mais je vous ai un peu vu. Je suis venu dans votre établissement, je vous ai vu avec vos éducateurs. Ce qui est une bonne chose pour vous, c'est les éducateurs que vous avez. C'est pas l'enfermement en soi. Hein. Ce qui peut vous apporter quelque chose, c'est eux. Hein. L'enfermement en soi, c'est pas une bonne chose. Qu'il y ait des moments où il faille vous contenir un peu, parce que des fois, vous n'êtes pas drôle et vous faites un peu n'importe quoi. Donc, qu'il faille vous ramener à un peu plus de sérieux, c'est... probablement. Hein. Mais ce n'est pas l'enfermement qui, en soi, c'est pas... Le but de l'éducation, ce n'est pas d'enfermer. Le but de l'éducation, c'est de libérer. Hein. Donc, éducatif fermé, c'est une sorte de... Pour un mot très savant qui s'appelle oxymore. L'oxymore, c'est quand on oppose deux choses qui n'ont rien à voir. hein, qu'on dit le silence assourdissant. Tu vois, bon, c'est du silence, ça ne fait pas de bruit, donc ça ne peut pas être assourdissant. Donc, voilà. Donc moi, je dis, éducation et fermée, c'est un oxymore. Voilà. Si on veut éduquer quelqu'un, c'est lui apprendre la liberté, c'est lui apprendre à être un citoyen, c'est lui apprendre à se débrouiller par ses propres moyens. Donc ce n'est pas en l'enfermant qu'on va lui apprendre ça. Hein. Donc la chance, c'est sûrement pas l'enfermement. La chance, c'est d'avoir des éducateurs qui s'intéressent à vous, qui vous considèrent comme des gens intéressants, qui méritent qu'on se penche sur leur situation. C'est ça la chance, c'est pas l'enfermement en soi. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous n'êtes pas vraiment très très enfermé. La preuve, là, on n'est pas deux, on est dehors. Oui.
Merci.
T'as d'autres questions ?
Non.
Ok, très bien. Eh bien, merci pour votre intervention sur Radio Rol-Tanguy, Jean-Jacques. Merci à toi aussi. Et puis, en souhaitant que vous ayez transmis votre intérêt pour la jeunesse dans son ensemble à tous nos auditeurs. Merci beaucoup et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Ik zoek geen problemen die vervelend zijn. Waar je nu aan denkt is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen je bent safe bij mij. Dit is do or die. Ik zoek geen problemen die vervelend zijn. Waar je nu aan denkt is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen je bent safe bij mij.